le fer te lance. Il faut travailler sans rechigner. Et ne chercher que la qualité. N'être à la charge de personne, elle doit être la devise que chacun devrait valider.
Radio de la paix, il est 18h. Le journal de 18h. Linda Christelle Ballier.
Nouvelle heure, nouvelle session de l'information. Bonsoir et bienvenue à tous. Au sommaire, à quelques jours de la rentrée scolaire 2024-2025, le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation a tenu une réunion ce lundi pour faire connaître son programme, le programme de cette session. Mais en attendant le début des cours prévus le 9 septembre prochain, les parents d'élèves se préparent, ils se plaignent de la cherté de la vie, mais font leurs achats. Rapporte Ange Kofi dans un dossier d'actualité réalisé à Abidjan que vous suivrez en fin d'édition. Et puis dans la région de l'Ifou, la concertation interpartie pour les élections démocratiques, la CIED, sensibilise les acteurs politiques régionaux du RHDP pour une présidentielle apaisée en 2025. Dans l'actualité, hors de nos frontières, l'Algérie a refoulé depuis janvier vers le Niger voisin près de 20 000 migrants africains, dont des femmes et des enfants, souvent dans des conditions brutales, apprend ce lundi l'AFP. Voilà pour nos grandes lignes. Le lycée moderne d'Anyama a été le cadre de la grande réunion de rentrée marquant le début de l'année scolaire 2024-2025, organisée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. Cette cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de la ministre de tutelle, Maria Toukoné, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement. Le directeur des écoles, des lycées et collèges Zamblébi Germain a présenté les principaux éléments du programme pour cette année scolaire. On l'écoute.
Dans l'enseignement général, l'année débute le 9 septembre 2024 et s'achève le vendredi 11 juillet 2025, soit 44 semaines. Elle comporte une période d'enseignement-apprentissage de 30 semaines, soit 1200 heures, et une période d'examen de 9 semaines. Le premier trimestre débute lundi 9 septembre 2024 et s'achève le vendredi 29 novembre 2024. Il dure 11 semaines, un jour, soit 448 heures. Le deuxième trimestre part du lundi 2 décembre 2024 au vendredi 28 février 2025. Il dure 10 semaines, 2 jours, soit 416 heures. Le troisième trimestre commencera le lundi 3 mars 2025 et prendra fin le vendredi 9 mai 2025. Il dure 8 semaines, 2 jours, soit 336 heures. À présent, les dates des congés des vacances scolaires 2024-2025. Les congés de Toussaint du mardi 29 octobre 2024 au dimanche 3 novembre 2024 inclus. Le congé de Noël et du Nouvel An du vendredi 20 décembre 2024 au dimanche 5 janvier 2025 inclus. Le congé de février du mardi 11 février 2025 au dimanche 16 février 2025 inclus. Le congé de Pâques du mercredi 16 avril 2025 au mercredi 23 avril 2025 inclus. Quant aux grandes vacances, du vendredi 11 juillet 2025 au dimanche 7 septembre 2025 inclus.
Vous suiviez à l'instant le programme de l'année scolaire 2024-2025 énoncé par le directeur des écoles, des lycées et collèges Zamblé-Germain au micro de Jean-Mylène Bitti. Environ 800 enseignants, encadreurs et dirigeants d'établissements privés du primaire et du secondaire ont reçu une formation en pédagogie. C'était du 12 au 28 août dernier au lycée 4 de Dallois. Cette formation organisée par la direction de l'encadrement des établissements privés du ministère de tutelle permettra d'avoir leur autorisation d'enseigner et de diriger les établissements scolaires dans le secteur privé. Compte rendu, Jean-Noël Kwame.
L'inspecteur pédagogique principal à la sous-direction des innovations pédagogiques au ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Mbaya Alphonse, revient sur l'importance de cette formation des acteurs des établissements privés du primaire et du secondaire de la région.
Les établissements privés en Côte d'Ivoire constituent le gros lot pour que les enseignants qui sont dans ces établissements aient un minimum de pédagogie. On demande aux fondateurs d'avoir des enseignants avec autorisation d'enseigner. Si vous avez une autorisation, vous pouvez même négocier
diriger pour avoir un bon traitement. Demain, vous-même, vous allez diriger votre établissement. Il faut avoir la formation pour le faire.
Après la remise des attestations de formation, Ian George, le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Daloa, a demandé aux bénéficiaires de faire bon usage des compétences acquises au cours de cette formation.
Près de 80% des établissements de la direction régionale sont des établissements privés. Il est donc bon que nous formions les acteurs de ces établissements pour avoir des enseignants nouveaux et impacter la qualité et la crédibilité de nos écoles. On doit avoir un comportement responsable. Un enseignant qui impose respect, la rigueur, la discipline. L'enseignant doit garder de l'autorité et être présentable.
Le chef d'antenne de la pédagogie et de la formation continue de Daloa, Jurum Soa, a également insisté sur le concept de l'enseignant nouveau, compétent et responsable en vue de l'amélioration des résultats scolaires dans la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Daloa. Jean-Noël Kwame, Daloa, Radio de la Paix.
Et toujours sur le sujet de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire, le syndicat national des enseignants du second degré de la Côte d'Ivoire, SINESI, a tenu son congrès ordinaire le week-end dernier à Yamoussoukro, entre autres décisions prises, la mise sur la table d'une doléance relative au paiement des primes aux enseignants. Et Koun Kwesi, le secrétaire général du SINESI, reconduit lors de ce congrès, apporte des précisions concernant ces différentes primes.
Je voudrais dire que beaucoup de résolutions ont été prises. Entre autres, sur le plan de la politique générale, il faut dire que les congressistes ont réaffirmé l'autonomie et la démocratie au sein du SINESI. Sur le volet social, beaucoup de résolutions également ont été prises. Mais la résolution phare concernant le volet social, c'est l'octroi d'une prime aux enseignants. Et nous le disons que l'élégance de la justice sociale passe par des primes aux enseignants. Il n'est pas juste que dans un État, les enseignants soient laissés de côté et puis d'autres corporations ont des primes, soit leur disant des primes d'encouragement. On pense que, en tout cas pour notre part, si il doit y avoir des primes dans une nation, ça doit d'abord commencer par les enseignants. Un enseignant qui n'est pas motivé, un enseignant qui n'est pas dans de bonnes conditions, c'est toute l'éducation nationale qui a échoué.
D'accord. Même chose, secrétaire général, cette doléance, elle est nouvelle ou bien elle est déjà dans votre pipe depuis quelque temps?
Non, ce n'est pas une doléance nouvelle. Il faut dire qu'avant notre congrès, nous avons initié les discussions sectorielles au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons arrêté un certain nombre de revendications. Tout a été consigné dans un cahier et remis à Madame la ministre de l'Éducation nationale. Nous aurions souhaité qu'avant la rentrée, notre ministre puisse se prononcer. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Je pense que c'est pour tout cela que les camarades sont revenus sur cette ancienne revendication pour nous. C'est l'une de nos revendications essentielles.
C'était à l'instant le secrétaire général du SINESI, le syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire, et Koun Kwesi en ligne avec Junior Cardin. Et à côté d'éducation, on parle également d'excellence dans l'éducation nationale, et à cet effet, un prix national d'excellence du meilleur élève a été organisé, et c'était la 10e édition, organisée par la Compagnie nationale d'électricité. Elle a récompensé les élèves ayant obtenu les meilleurs résultats aux examens nationaux à grand tirage dans l'enseignement général et l'enseignement technique. Mel Emmanuel pour le compte-rendu.
Un chèque, une plaque d'honneur, une médaille et des présents, tels sont les lots dont ont bénéficié les lauréats de cette cérémonie d'excellence. Les motifs et objectifs de cette célébration nous sont ici expliqués par le directeur de l'entreprise instigatrice de ce prix, la Compagnie nationale d'électricité, Amadou Bakayoko.
Le faisant, un des objectifs, c'est de stimuler leurs camarades à suivre leur raison et à ne pas céder aux raccourcis vagues. Travailler à être le meilleur dans une société où le mérite se mesure par l'excellence du travail abattu. En inscrivant depuis 10 ans maintenant cette décision d'accompagnement de l'école ivoirienne dans nos actions sociétales, nous optons pour la construction de ressources humaines de qualité en faveur de la poursuite du développement de la Côte d'Ivoire.
Les lauréats, composés d'élèves de l'enseignement général et de l'enseignement technique, ont tenu à exprimer leur gratitude au ministère de tutelle ayant garanti leur arrivée à ce sacre. Kenza Wassenan, porte-parole des récipiendaires.
Être mis en lumière en ce jour montre notre dévouement dans nos études et constitue la meilleure marque d'attention qui nous incite à rester humbles. Nous adressons aujourd'hui nos plus sincères remerciements au ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation et au ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage qui mettent tout à la disposition des élèves de la Côte d'Ivoire.
Avant ce couronnement, les lauréats ont effectué des visites de sites techniques et touristiques et participé à des ateliers de formation et d'orientation sur leur choix de carrière. Le prix national d'excellence du meilleur élève est à sa 10e édition et a mis en lumière cette année 9 élèves partant du primaire au secondaire.
Merci à vous, Mel Emmanuel, pour ce compte-rendu de la 10e édition du prix national d'excellence du meilleur élève célébré le vendredi 30 août dernier à Abidjan et organisé par la compagnie ivoirienne d'électricité. La concertation interpartie pour les élections démocratiques, la CIED, en tournée d'information et de sensibilisation des militants des partis politiques de l'IFU, a rencontré dimanche 1er septembre à Daoukro les responsables des différentes instances du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, en vue de préparer une élection présidentielle apaisée en 2025. Notre correspondant sur place, François Kra, nous en parle.
Le président de la CIED de Daoukro explique le contexte et justificatif de l'activité. T'annonçais-je.
Nous sommes à la veille des élections de 2025 et il est important pour nous de parler aux partis politiques parce qu'aujourd'hui, l'atmosphère politique est un peu véritablement nuageuse. Nous avons besoin de dégager les esprits en formant, en sensibilisant tous les acteurs politiques.
À en croire le chef du bureau régional du NDI de l'IFU, Ouattara Issiaka, la CIED a fait ses preuves lors des élections.
Ces élections locales sont vraiment apaisées. Au cours donc de ces élections, la CIED a véritablement travaillé à anticiper sur les discours de haine, à prévenir donc des conflits qui auraient pu avoir lieu. Et la CIED, avec le corps préfectoral, a invité certains candidats qui ne respectaient pas malheureusement le code de bonne conduite à les inviter au respect du code de bonne conduite.
Pour donc maintenir ce climat de paix aux élections prochaines, le coordonnateur principal du RHDP de l'IFU, Lamine Konaté, invite ses collaborateurs à relayer les informations reçues.
Diffuser ces informations dans nos bases et de demander à nos militants de pratiquer le libéralisme à visage humain.
Selon le chronogramme, la prochaine réunion est prévue pour cette semaine avec le PDCI RDA. François Kra, Daoukro, Radio de la Paix.
Et depuis quelques temps, la Côte d'Ivoire connaît un temps froid, surtout dans sa partie sud. Et la Sodexam, la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, appelle les populations à se protéger afin d'éviter de tomber malade. On écoute à ce propos son chef du service modération, Adia Benjamin Aristide.
Effectivement, depuis le mois de juillet, on a constaté un temps assez frais. Dans le mois d'août, c'est là où nous avons nos températures les plus faibles. Vous savez que pour le sud, nous avons quatre saisons. La grande saison des pluies qui commence généralement en mars et qui se termine fin juin vers mi-juillet. Et de mi-juillet à mi-septembre, on a une pause pluviométrique qu'on appelle communément la petite saison sèche au sud, marquée par donc un temps très nuageux. Et en même temps, on a aussi une température très basse au niveau de la mer.
Ce temps froid va durer jusqu'à quand selon vous?
Alors ce temps froid va durer jusqu'à mi-septembre. Mais à partir de septembre, les températures vont commencer à augmenter légèrement. Et fin septembre, on aura donc le retour de pluie. Nous sommes dans une situation de temps assez froid et donc c'est un inconfort parce que nous sommes habitués à un climat généralement chaud. Et donc le conseil que Sodexam donne à la population, c'est que pendant ce temps, il faut se vêtir chaudement, il faut se tenir au chaud. Il faut donc prendre les dispositions par rapport à tout ce qui est fraîcheur. Il y a d'autres qui ont des maladies liées au rhumatisme qui pourraient être aggravées aussi par les temps de fraîcheur. Donc, c'est des conseils d'usage, des conseils pour prendre des dispositions pour se tenir au chaud.
Vous écoutiez le chef du service modération à la Sodexam, la société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, Adia Benjamin Aristide, qui a été joint par Clara D'Acosta. Et puis à Sakassou, un deuxième malade de la variole du singe vient d'être déclaré guéri sur les quatre cas confirmés dans ce district sanitaire. L'information a été portée ce week-end à la presse par le directeur départemental de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La correspondance de Joseph Assali.
La prise en charge médicale des quatre malades de la variole du singe notifiés dans le département de Sakassou, région de Gbeke, évolue positivement selon le chef du district sanitaire. Après un premier cas guéri, un deuxième vient s'ajouter à la liste. Docteur Kona Yoboué, directeur départemental de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle de Sakassou.
Nous avons pratiquement deux cas guéris. Les deux autres cas sont observés une évolution favorable. Apparemment, au plan clinique, nous pouvons dire qu'ils sont en voie de guérison.
Pour rappel, retenons que les 4 cas confirmés de la variole de singe dans le département de Sakassou proviennent des localités d'Adjamé-Sanloa, de Koupela et de Toumoudi-Sakassou. Une équipe du service des maladies infectieuses et tropicales s'est rendue le 28 août sur le terrain en vue de jauger à l'aune la situation. Pour le directeur départemental de la santé, le docteur Kona Yoboué, point besoin de s'alarmer outre mesure.
Je peux vous rassurer que la situation est sous contrôle dans le district sanitaire de Sakassou.
Malgré cette lueur d'espoir, les populations restent vigilantes.
Être prudent, la maladie passe par les animaux sauvages, donc faisons très attention.
Aux dernières nouvelles, 5 nouveaux cas suspects de la variole de singe ont été enregistrés, dont 3 déclarés négatifs. L'on espère qu'il en sera de même pour les 2 cas restants. Joseph Assalé, Sakassou, Radio de la Paix.
Dans l'actualité, hors des frontières ivoiriennes, l'Algérie a refoulé depuis janvier vers le Niger près de 20 000 migrants africains, dont des femmes et des enfants, souvent dans des conditions brutales, a appris ce lundi l'AFP auprès de l'ONG locale Alarme Faune Sahara. Cette organisation qui secourt les migrants dans le désert entre l'Algérie et le Niger a recensé exactement 19 798 personnes refoulées de janvier 2024 à août 2024, selon son responsable de la communication Mokhtar Daniaï. Et puis, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a demandé au juge de statuer d'urgence sur l'émission de mandat d'arrêt contre les dirigeants des deux parties au conflit. Dans cette urgence est justifiée à l'effet de prévenir l'escalade de la violence dans la région, nous explique le coordonnateur des coalitions francophones pour l'Afrique de la CPI, Ali Ouattara.
Depuis le 20 mai 2024, le procureur de la CPI, M. Karim Khan, a demandé à la Chambre préliminaire des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien, le ministre de la Défense israélien et 3 dirigeants du Hamas pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés. Et donc ces mandats d'arrêt devraient être analysés par des juges de la Chambre préliminaire et validés avant d'être délivrés. Donc, comme vous le rendez compte, c'est pas juste là, à peu près 1 mois, 2 mois, pour pouvoir statuer là-dessus. Et vu l'urgence catastrophique par rapport à la situation à Gaza, il faut comprendre que le procureur s'inquiète que ces crimes-là puissent être étendus, et notamment qu'il y ait plus de victimes encore, surtout qu'il y a des enfants, beaucoup de civils. Et donc, comprenez que c'est une inquiétude grandissante du procureur, et à cette situation, monsieur a demandé qu'il ait une urgence qui pourrait peut-être dissuader, parce qu'en fait, il y a des mandats qui sont émis officiellement, donc ça pourrait dissuader justement les exactions qui ont lieu actuellement en Israël par rapport aux populations civiles.
À l'instant, Ali Ouattara, le coordonnateur des coalitions francophones pour l'Afrique de la Cour pénale internationale, CPI. Pour refermer ce journal, nous vous proposons un dossier d'actualité relatif aux préparatifs de la rentrée scolaire du 9 septembre prochain. Les parents s'y préparent en se plaignant de la situation de la vie chère et des changements répétés des ouvrages scolaires. Un dossier d'actualité réalisé à Abidjan par Ange Kofi Afoué.
Cette rentrée scolaire 2024-2025 se fait à un moment de cherté de la vie. Nous a répondu une dame à Abidjan au sujet de comment elle la prépare.
Bien sûr, tout à fait. Nous avons commencé à faire les inscriptions en ligne. Aujourd'hui, c'est pas les mêmes situations parce que particulièrement cette année, je trouve que c'est un peu plus difficile sur le plan financier. Tout est cher, voilà. Donc c'est par rapport à ça.
Partie faire des achats pour la rentrée, une autre a dit craindre pour ce qu'elle va acheter.
Bientôt, c'est la rentrée. Donc, nous sommes partis dans les écoles. Nous avons la liste des fournitures. Nous sommes venus acheter avant qu'il y ait de l'affluence, les fournitures de l'enfant. Les prix sont abordables, en tout cas, et fait de bons prix. Les livres d'abord, maintenant, il va me chercher les cahiers. C'est pour un élève de seconde. C'est une situation stressante. Les livres que tu vas acheter aussi, est-ce qu'ils ne vont pas dire là-bas que ce n'est pas ça? Souvent, nous, donc, la liste, on envoie, on dit non, ce n'est pas ce qu'ils ont demandé parce qu'ils veulent forcément qu'on achète à l'école. Là-bas. Or, quand on achète à l'école, ça devient plus cher.
Quand un papa, lui, dénonce l'instabilité l'instabilité des manuels scolaires.
Quand la route est longue et que tu n'as pas de moyens, donc dès qu'on ferme les classes, moi je commence pour moi. C'est-à-dire, côté fourniture, je n'ai pas encore. J'ai déjà préparé les tenues. J'attends maintenant les fournitures. Présentement, c'est un peu difficile. Le coût de la vie est devenu un peu trop cher. Les ouvrages, on ne sait pas. Les coûts vont augmenter, on ne sait pas. Ici, en Côte d'Ivoire, chaque jour que Dieu fait, quand on se réveille, on a un nouveau dossier. La banane que tu avais l'habitude de payer à 100 francs, tu te réveilles, on sait 200. Chaque année, on change des ouvrages. Dans les années jadis, moi, quand j'ai quitté le CP2, mes livres de CP2, j'ai laissé ça à mon petit frère. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose.
Actuellement, les clients sont rares, nous indique pour sa part le gérant d'une librairie où nous sommes allés.
Comme ce n'est pas bien commencé d'abord, pour le moment, les clients viennent un d'abord. Comme la rentrée, c'est le mois prochain. Je vends les nouveaux livres, je vends les anciens livres. On discute ici. Ce n'est pas un prix fixe. Même les nouveaux livres, on peut diminuer. Pour avoir beaucoup de clientèle, c'est pour cela qu'on fait les réductions.
Et ce libraire de faire ce plaidoyer quant aux ouvrages scolaires.
Moi, mon souci, chaque année, on change les livres. Je demande à le gouvernement, pour même de changer des livres, là, ils n'ont qu'à essayer de voir ça. Ça arrange pas les parents d'élèves. Ça nous arrange pas aussi. Chaque 2 ans, on change les livres. Ça nous arrange pas. Et ça arrange pas la population aussi. Ils vont changer des livres. Les cahiers d'activité, là, des 6e jusqu'à la 3e. Nos fournisseurs, ceux qui nous donnent des livres, là, nous ont dit ça.
Nous faisons tout pour que nos enfants puissent aller à l'école. Mais la réussite scolaire dépend de leur sérieux dans les études. Nous ont confié certains parents à quelques jours de cette rentrée scolaire 2024-2025.
Merci à vous, Ange Kofi Afoué, pour ce dossier d'actualité relatif aux préparatifs de la rentrée scolaire 2024-2025. Un dossier d'actualité qui met un terme à notre édition, dont voici le rappel des titres. Justement, on en parlait à quelques jours de la rentrée scolaire 2024-2025. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation a tenu une réunion ce lundi pour faire part du programme de cette session. Et puis dans l'IFU, la concertation interpartie pour les élections démocratiques, la CIED, sensibilise les acteurs politiques régionaux du RHDP pour une présidentielle apaisée en 2025. Pour terminer, l'Algérie a refoulé depuis janvier 2024 vers le Niger près de 20 000 migrants africains, dont des femmes et des enfants, souvent dans des conditions brutales, apprend ce lundi l'agence France-Presse. Tout de suite, votre magazine Economia, présenté par Jean-Claude Comet. Je vous souhaite une excellente suite de programmes à l'écoute de Radio de la Paix.